Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici les titres. Le ministre de l'Éducation se distancie des propos de son conseiller controversé, mais ne le révoque pas. Des dommages-intérêts pour l'hospitalisation forcée d'un bébé né à domicile. Et puis commémoration ce week-end du 43e anniversaire de l'écrasement du printemps de Prague. Le ministre de l'Éducation, Józef Dobesz, s'est officiellement distancié des propos de son collaborateur Ladislav Batora visant le ministre des Affaires étrangères et président de Top 09, Karel Schwarzenberg, qu'il avait qualifié de « pauvre vieux ». Dans un communiqué, le ministre de l'Éducation indique avoir reproché ses propos à Ladislav Batora tout en lui donnant des instructions quant à ses interventions publiques. Mercredi, les ministres de Top 09, un des trois partis de la coalition gouvernementale, avaient quitté le Conseil des ministres en signe de protestation. Pour le parti Top 09, la décision de Józef Dobesz ne suffit pas. Ses représentants continuent de réclamer la démission de Ladislav Batora. Ce dernier est une figure controversée de la scène politique tchèque. Soutenu par l'entourage du président de la République, il dirige l'initiative souverainiste DOST. Un tribunal de Brno a condamné les services sanitaires de la ville à s'excuser auprès d'une femme de 29 ans pour l'avoir contrainte à faire emmener son nouveau-né à l'hôpital juste après l'accouchement à domicile. Les services sanitaires ont également été condamnés à payer en tout la somme de 100 000 couronnes de dommages-intérêts à la mère et à son fils. De plus en plus de femmes tchèques décident ces dernières années d'accoucher à domicile. Ce dimanche, le 21 août, marquera le 43e anniversaire de l'écrasement du printemps de Prague, le 21 août 1968. À l'occasion de cet anniversaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, journalistes et historiens tchèques ont voulu examiner la fin du mouvement démocratique dans le pays sous un angle inhabituel. Un livre et un documentaire intitulé « Invasion 68, regard russe » s'intéresse à la manière dont cette soi-disant aide fraternelle de l'Union soviétique a été perçue et vécue par les Russes, toutes professions et classes sociales confondues. Le documentaire sera diffusé dimanche soir sur la deuxième chaîne de la télévision publique tchèque. Le philosophe et prêtre catholique tchèque Tomáš Halík va recevoir le prix du meilleur livre théologique européen pour 2009 et 2010. Il se rendra jeudi prochain à Vienne où il recevra son prix dans le cadre d'un congrès international de théologiens. Ce prix distingue son ouvrage intitulé « Patience with God » dans sa traduction anglaise. C'est la première fois que ce prix est décerné à une personnalité d'Europe centrale et orientale. On passe au sport avec du football et la contre-performance du Sparta Prague jeudi dans le tour des barrages aller de la Ligue Europa. Battu 2-0 par le club roumain de Vaslui, les Tchèques devront s'imposer avec au moins 3 buts d'écart la semaine prochaine sur leur terrain pour se qualifier. Des erreurs défensives et du gardien du Sparta ont permis aux Roumains d'inscrire les deux buts. Le match retour se jouera jeudi. La veille, l'équipe du Viktoria Plzeň, championne en titre de République tchèque, jouera également à Prague pour confirmer sa victoire contre Copenhague au Danemark et ainsi se qualifier pour la phase de poule de la prestigieuse et lucrative Ligue des Champions. La météo avec un ciel qui devrait rester partiellement couvert ce samedi, comme vendredi avec des averses en journée et des orages dans plusieurs régions, des températures entre 25 et 30 degrés. La suite du programme, c'est tout de suite maintenant. Restez à l'écoute.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, merci donc Alexis pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité en cette fin de semaine figure tout d'abord de l'économie et la question suivante. Face aux difficultés budgétaires de certains pays de la zone euro, la couronne tchèque peut-elle devenir une sorte de deuxième franc suisse? Une chose est sûre, la couronne tchèque profite d'un taux de change stable et relativement élevé par rapport à la monnaie européenne et le gouvernement tchèque n'est pas pressé d'adopter l'euro. Autre temps fort, ce dimanche, 43 ans se seront écoulés depuis l'invasion de la Tchécoslovaquie par les chars soviétiques. À cette occasion, sort un livre passionnant intitulé « Invasion 1968, regard russe », un ouvrage qui propose de présenter le regard porté par les Russes sur les événements tragiques de 1968 en Tchécoslovaquie et l'écrasement du printemps de Prague. Plus de précisions dans quelques instants. Et puis la rubrique du jour sera elle aussi consacrée à l'économie et plus précisément à la vente de cidre en République tchèque, un pari pas si fou que ça, malgré l'omniprésence de la bière comme nous l'entendrons. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une très bonne écoute à toutes et à tous. La couronne tchèque peut-elle devenir un deuxième franc suisse? La question peut prêter à sourire, à en croire pourtant certaines informations reprises par les médias pragois jeudi. La couronne, dont le taux de change reste relativement stable, pourrait devenir une valeur sûre en temps de crise et d'incertitude comme cela est le cas actuellement. En attendant, une chose est sûre, encore moins que jusqu'à présent, le gouvernement tchèque n'est pas pressé d'adopter l'euro. Mercredi, le Premier ministre a en effet déclaré qu'arrêter aujourd'hui une date pour l'adoption de l'euro ne serait pas une bonne décision pour la République tchèque. Petr Nečas a justifié sa position en expliquant que la crise financière actuelle dans la zone euro faisait de la monnaie européenne, je cite, « autre chose que ce qui figurait dans le traité d'adhésion à l'Union européenne signé à Athènes en 2003 ». Autrement dit, le gouvernement tchèque n'entreprendra les démarches pour l'introduction de l'euro que lorsque les avantages de celle-ci prévaudront sur l'abandon de la couronne. Pour l'heure, c'est une évidence, ce n'est pas le cas. Pourtant, quelques jours avant les déclarations de Petr Nečas, la Banque nationale avait publié une analyse selon laquelle la République tchèque devrait remplir, et ce de l'année prochaine, tous les critères de Maastricht nécessaires à l'adoption de l'euro. Si tel était le cas, cela signifierait que la monnaie unique européenne pourrait être introduite dès 2016. Mais pour qu'un tel scénario se réalise, il faudrait une décision que, contrairement aux entreprises et au secteur industriel, ni les responsables politiques ni la majorité de l'opinion publique, à en croire les récents sondages, ne semblent aujourd'hui enclins à prendre. Outre la crise dans la zone euro, une des raisons à cet attachement à la couronne est la relative bonne santé de celle-ci, comme explique l'économe Jan Bureš.
Pour l'instant, la couronne tchèque profite de la relative stabilité dans la région. C'est d'ailleurs pourquoi elle est comparée au franc suisse, pour l'instant seulement dans un sens positif. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les exportateurs, surtout si l'on pense aux zloty polonais ou aux florins hongrois, qui sont beaucoup plus sensibles à toutes les informations et surtout les mauvaises en provenance de l'économie mondiale. La couronne tchèque, elle, reste relativement stable. Elle faiblit certains un peu en ce moment, mais pas aussi fortement que le zloty polonais, et c'est vraiment plutôt une bonne chose tant pour les exportateurs que pour les importateurs.
Les importants déficits de plusieurs pays appartenant à la zone euro et le ralentissement de la croissance économique dans le monde, ajoutés à l'endettement relativement faible de la République tchèque, pourraient entraîner un intérêt grandissant des investisseurs pour les obligations tchèques. De là à faire de la couronne tchèque un deuxième franc suisse, il y a un pas que même les plus optimistes des économes tchèques ne sont pas prêts de franchir, et ce même si selon la Banque de République tchèque, la couronne devrait encore se renforcer par rapport à l'euro dans les deux prochaines années, la monnaie européenne pouvant s'échanger à 22 couronnes 50 en 2013. Le 21 août 1968 est une date qui représente, dans l'esprit de très nombreux Tchèques et Slovaques, une immense désillusion. À l'occasion du 43e anniversaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, les journalistes et historiens tchèques ont voulu examiner la fin du mouvement démocratique dans le pays sous un angle inhabituel. Dans le livre fraîchement sorti et intitulé « Invasion 1968, regard russe », ils s'interrogent sur la manière dont cette soi-disant aide fraternelle de l'Union soviétique a été perçue et vécue par les Russes, toutes professions et classes sociales confondues. Magdalena Rozinkova.
À l'époque, j'étais persuadée de bien faire. Aujourd'hui, je vois les événements de 68 dans un contexte différent. Je ne me comporterai plus de la même manière. Je ne ferai pas tellement de confiance aux médias et à la campagne du parti. Je me demanderai moi-même si je veux vraiment participer ou pas, a dit à l'occasion du lancement du livre à Prague le général Edouard Vorobiov, qui a participé à l'invasion d'août 1968 par les troupes de 5 pays socialistes menées par l'armée soviétique. Près de 700 000 soldats ont alors pris part à cette opération dont le but était d'étouffer le vent de liberté qui soufflait dans le pays, d'empêcher toute tentative de réformer le régime communiste. Le séjour provisoire de quelques 150 000 soldats soviétiques sur le territoire tchécoslovaque a finalement duré 23 ans. Par ailleurs, ce même général Vorobiov a dirigé leur départ du pays il y a 20 ans, en juin 1991. Le bilan de l'invasion est lourd. Rien que son premier jour a coûté la vie à 58 citoyens tchèques. Jusqu'à 1991, 290 décès au total en rapport avec la présence des soldats soviétiques ont été enregistrés, sans parler de la dépression générale dans laquelle a plongé la société. Le désenchantement qui a suivi l'écrasement du printemps de Prague a été propre aux Tchèques aussi bien qu'aux Russes, du moins à ceux qui espéraient un changement de climat dans leur propre pays. L'ancien correspondant de la télévision tchèque à Moscou, Josef Pazderka, qui est à l'origine du livre « Invasion 1968, regard russe », sorti aux éditions Torst, est allé à leur rencontre. Il explique.
J'ai interrogé plusieurs anciens soldats soviétiques qui avaient participé à l'occupation de la Tchécoslovaquie. Leurs positions sont différentes. Certains sont capables d'évaluer à juste titre ce qu'il s'était passé, d'autres n'y arrivent pas. J'ai aussi recueilli le témoignage des journalistes soviétiques qui étaient à Prague en août 1968 et qui connaissaient suffisamment le milieu pour comprendre ce qu'était le printemps de Prague. Ils s'étaient virulemment opposés à l'invasion soviétique et ont été ensuite sévèrement punis. Évidemment, j'ai rencontré les dissidents russes, pour qui le printemps de Prague était une période extrêmement forte et importante. Pour eux, l'occupation a mis un terme à tout espoir que quelque chose puisse changer en Union soviétique.
Complété par les commentaires d'historiens tchèques, des extraits de journal d'une scientifique moscovite, des photographies de Josef Koudelka, de photos, de documents et de témoignages inédits, cet ouvrage évoque entre autres les protestations publiques des dissidents russes contre l'occupation de la Tchécoslovaquie, notamment celle du 25 août 1968. Le livre s'intéresse aussi aux échos du printemps de Prague en tant que tel dans les milieux intellectuels et dissidents soviétiques. L'ancienne dissidente Ludmila Alexeyeva se souvient. Certains d'entre nous savaient parler tchèque ou ils se sont mis à l'apprendre. Ils achetaient Rude Pravo, Literárny list et d'autres journaux tchécoslovaques. Ils lisaient et traduisaient tout. Nous le retranscrivions et distribuions aux autres. Petr Kolář est ambassadeur tchèque à Moscou.
De nombreux intellectuels russes perçoivent aujourd'hui encore l'invasion comme un traumatisme, comme leur défaillance personnelle, comme une honte. Grâce à ce livre, le public tchèque le saura.
Il n'empêche que selon une étude réalisée en 2008 par le centre de sociologie russe Levada, plus de la moitié des Russes n'auraient pas d'opinion à propos de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie, en estimant que celle-ci était liée au passé de l'URSS et n'a aucun rapport à la Russie actuelle.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Et la suite de notre programme est consacrée à la question suivante, à savoir si vendre du cidre dans le pays où la bière est reine n'est pas une folie. C'est en effet un pari plutôt audacieux lancé par trois jeunes entrepreneurs tchèques il y a un peu moins de 2 ans. Un pari en phase d'être gagné haut la main. Rencontre avec Vašek Beran et Lenka Beranova, deux des cofondateurs de Mad Apple, au micro d'Anne Clairveluire.
Économie, commerce.
Mad Apple, la pomme folle. C'est ainsi que Vašek Beran, sa sœur Lenka Beranova et un troisième compère, Petr Fila, ont décidé de baptiser leur cidre tchèque. On pourrait penser qu'il fallait être en effet peut-être un peu fou pour vouloir oser essayer de détrôner la bière en République tchèque, mais c'est dans un autre pays où la bière est aussi une tradition nationale que leur est venue cette idée, Lenka Beranova.
Avec un ami, nous sommes allés en Angleterre où nous avons travaillé et étudié l'anglais. Et comme nous vivions avec des Anglais et que nous allions avec eux dans les pubs pour boire une bière, nous nous sommes rendus compte qu'au milieu des bières, il y avait aussi du cidre. Nous avons commencé à boire du cidre, ça nous plaisait bien. Un jour, Vašek est venu nous voir pour une visite en Angleterre. Un soir, nous avons bu peut-être un peu plus de cidre que d'habitude et nous est venue l'idée que nous pourrions produire du cidre chez nous, en République tchèque.
L'idée est donc née, mais pas de folie des grandeurs au début, comme le raconte Vašek Beran.
Les débuts étaient très modestes. Nous avons en fait commencé dans notre jardin. Nous nous sommes munis de notre propre pressoir et nous avons choisi de bonnes variétés de pommes. Nous avons un verger près de Znojmo. Nous avons appris le mode de fabrication du cidre. Nous avons beaucoup observé les expériences anglaises. Nous avons visité des maisons de cidre en Angleterre et après une année d'essai de diverses méthodes, nous avons compris et réussi à faire ce cidre.
Absent de République tchèque, le cidre est néanmoins fabriqué dans divers pays européens. Les jeunes entrepreneurs ont bien fait le tour des différentes productions nationales, françaises, espagnoles, mais ils sont restés sur le type de cidre anglais, non seulement parce que c'est là-bas qu'ils ont découvert ce fameux breuvage, mais aussi parce que de nombreux jeunes tchèques se sont déjà rendus en Angleterre, notamment pour y travailler, et connaissent déjà le cidre anglais. Il est assez étonnant de constater qu'il n'existe aucune tradition de cidre tchèque ou d'une boisson qui aurait pu s'en rapprocher à base de pommes, ce fruit étant par ailleurs très présent dans l'agriculture et la gastronomie tchèque. Un paradoxe sur lequel se sont aussi interrogés les deux entrepreneurs.
Il n'y a pas d'histoire de cidre chez nous. Quand nous sommes arrivés sur le marché, il y avait un peu d'importation de cidre, surtout d'Angleterre. Nous sommes les premiers à produire du cidre. C'est intéressant parce que nous avons beaucoup de pommes. Il y a beaucoup de vergers dans toute la Bohême. Il est donc curieux que l'on ne boive pas de cidre. C'est peut-être parce que nous produisons du vin.
Je pense plutôt qu'une des raisons est à chercher dans le passé. Quand on produisait du vin autrefois, de petits viticulteurs malhonnêtes utilisaient des pommes dans le vin. Et je pense qu'à cause de ça, chez les consommateurs tchèques est née une aversion pour les boissons à base de pommes. C'est devenu négatif pour cette raison. Je pense que cela a beaucoup influencé le fait que la pomme, qui est un produit pourtant fantastique, n'a pas été utilisée pour fabriquer des boissons.
La jeune génération, selon Vachek Beran, ne connaît pas forcément cette histoire et n'a donc pas d'a priori sur une boisson à base de pommes. Et le cidre de Mad Apple se développe, Vachek Beran.
Nous sommes maintenant à plus de 40 000 litres par an, plus ou moins, même 50 000 litres. En fait, cela croît constamment. Nous produisons en faisant de l'outsourcing, c'est-à-dire que nous nous laissons presser le jus. Ce jus doit avoir des caractéristiques précises en termes de sucre et d'acidité. Certains jus sont plus adaptés au cidre, d'autres moins. Donc, bien sûr, nous choisissons les variétés. C'est un mélange de variétés. Nous faisons fermenter le jus avec une levure spéciale dans de grands fûts. La fermentation dure environ un mois, mais la période complète pour préparer notre cidre est d'environ deux mois. Ce n'est pas très long, sinon le jus est de République tchèque. Nous produisons à Znojmo. Depuis peu, nous pensons déménager la production pour nous rapprocher de là où est produit le jus, mais ce n'est qu'une idée encore pour le futur.
Alors, quels sont les consommateurs de Mad Apple et surtout comment concurrencer la bière, véritable boisson nationale dont la consommation par habitant est la plus élevée au monde? C'est la question à laquelle répond Vachek Beran.
C'est difficile parce que bien sûr nous sommes une nation de bière. On boit aussi beaucoup de bière et la bière est très bon marché. Elle est même moins chère que la limonade. C'est donc difficile de concurrencer la bière dans cette situation. Mais en même temps, les gens en ont parfois assez de boire de la bière et il n'y a pas d'alternative. Et je pense que le cidre atteint son objectif dans le sens où c'est quelque chose de nouveau, d'intéressant. Et en plus, c'est bon et rafraîchissant. Je dirais que c'est la meilleure alternative à la bière.
Les boissons alternatives sont souvent conçues ou destinées aux consommatrices, donc aux femmes, plus qu'aux consommateurs masculins. Ce n'est pas tout à fait le cas de Mad Apple, estime Vachek Beran.
Je dirais que c'est moitié-moitié. D'après les échos que j'ai, je dirais que c'est moitié-moitié, c'est-à-dire autant pour les hommes que pour les femmes. Peut-être que si notre cidre était moins fort, moins alcoolisé, nous nous adresserions plus au public féminin. Mais là, je dirais que c'est vraiment moitié-moitié.
Le cidre de Mad Apple contient en effet près de 6% d'alcool, ce qui le place en haut du tableau sur l'échelle des cidres européens et internationaux, dont le taux d'alcool doit osciller entre 2 et 8%. Mais c'est surtout un cidre dont la qualité a été reconnue très rapidement. On écoute Lanka Beranova.
Notre succès va au-delà des frontières de la République tchèque. Chaque année, à Londres, est organisé un concours international, l'International Cider Challenge, auquel nous avons participé en 2010 et en 2011. Et nous avons obtenu pour chacune de nos participations la médaille de bronze. Ce concours est international et y sont en compétition plus de 100 cidres du monde entier. C'est donc un peu un succès pour nous.
Vous pouvez trouver et goûter ce cidre tchèque dans les commerces et dans de nombreux cafés et débits de boissons du pays, ainsi qu'en Pologne et en Slovaquie. Et pour rester un semblant fidèle à la bière ou pour les déguster à l'anglaise, il est désormais possible de le commander à la pression dans une taverne du quartier de Vršovice, le Zubati Pes, à Prague.
Voilà, et c'est déjà la fin pour aujourd'hui du bloc Actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité, et à très bientôt de nouveau à l'écoute.